Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 3 du Balado Repère, portion témoignage étudiant. Nous avons avec nous Marie-Michèle Cyr et Vincent Lemieux, étudiants, parents, et ma collègue Sarah-Michèle Barrette, du service aux étudiants, et moi-même, Jessica Rondeau-Bouchard. Alors, bienvenue à tous, merci d'être là. Rapidement, là, j'aurais le goût de vous lancer un petit peu la question, en fait, de me parler peut-être de votre parcours étudiant. Donc, Marie-Michèle?
Oui, en fait, moi, je suis bachelière en administration des affaires, profil gestion des ressources humaines. Je suis actuellement à la maîtrise en sciences de la gestion et je suis maman de deux enfants, donc 8 ans et 4 ans, en fait, et j'ai fait bac maîtrise l'un à la suite de l'autre, donc j'ai pas eu d'interruption entre les deux.
Je voudrais souligner aussi gagnante du prix de l'engagement étudiant quand même. Alors, bienvenue à toi. Vincent, quant à toi.
Oui, bonjour. Donc, Vincent Lemieux, je suis enseignant en éducation physique et à la santé. Par la suite, j'ai fait une maîtrise en sciences de l'activité physique, plus côté santé mentale, santé physique ensemble. Puis, présentement, je suis candidat au doctorat en psychologie profil recherche.
Bien, merci à vous deux. Bonjour Sarah-Michèle.
Bonjour.
Lors de la première, dans la portion le plus expert, on avait parlé là, que la motivation faisait partie des atouts majeurs dans un retour ou à tout le moins une poursuite des études. Donc, j'ai envie de commencer avec cette question-là. Quelles ont été vos motivations personnelles à débuter ou poursuivre là, le projet d'études alors que vous étiez parent?
Oui, donc pendant mon bac en enseignement de l'éducation physique et à la santé, pendant un de mes cours, on a regardé des études qui montraient un peu l'insatisfaction corporelle que les jeunes avaient autant au secondaire qu'au primaire. Puis en même temps, je faisais de la suppléance en enseignement. Puis je me rendais compte qu'en tant qu'enseignant en éducation physique, les jeunes venaient souvent nous voir, ils venaient souvent nous parler pour parler de leurs problèmes, ça peut être leurs problèmes au niveau de la famille, peu importe. Mais il y en a beaucoup aussi qui venaient se confier sur « j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de gagner du poids, j'ai envie d'être en santé, qu'est-ce que je dois faire? C'est toi l'enseignant en éducation physique, c'est toi qui connais ça. »
Comme un peu la ressource là, pour ces jeunes-là.
Oui, exactement. Mais je me rendais aussi compte que pendant mon parcours, pendant mon bac, on n'a eu aucun cours qui nous a préparé à faire face à ça. Donc, les enseignants, ils veulent faire de leur mieux, ils veulent aider les jeunes, ils ne veulent pas les nuire, mais ils ne savent pas vraiment quoi répondre, donc ils vont au mieux de leur connaissance. Donc, je me suis dit, ah, ça serait chouette si on pouvait faire un programme, un projet pour outiller les enseignants à faire face à cette problématique-là.
Oui, vraiment une super, super motivation, effectivement. Puis des fois, dans ces questionnements-là que tu devais avoir, il devait avoir aussi ce souci-là de ne pas faire pire, de ne pas répondre des mauvais outils comme « va faire plus d'entraînement » ou des questions, en fait,
D'alimenter.
Exact, oui, d'alimenter des troubles peut-être au niveau qui se développent au niveau du comportement alimentaire.
Oui, exactement. Puis les enseignants, ils veulent, c'est très rare, en tout cas ceux qui veulent nuire, ils veulent aider les jeunes. Donc, mais ils répondent au mieux de leur connaissance. Donc, si on n'est pas formé, on ne sait pas trop quoi répondre.
Exact,
donc,
ça peut être maladroit rapidement.
Oui, exact.
Super. Donc, oui. Et en fait, là, peut-être rapidement nous dire, quand est-ce que les bébés, les enfants sont arrivés là, dans votre projet ou à tout le moins, par rapport à toi, Vincent, là, je comprends que les enfants sont arrivés pendant le projet d'études. Pour toi, Marie-Michèle, là, c'était plus avant. Rapidement, nous glisser un mot par rapport aux enfants.
Oui, parfait. Mon premier bébé, en fait, mon plus grand, je l'ai eu quand au début de la pandémie, en 2020. J'étais en train de terminer ma maîtrise. Ma conjointe était en train de terminer sa maîtrise aussi. Elle était enceinte. On essayait de jongler un peu avec tout ça. Donc, le premier est vraiment arrivé en 2020. Puis le deuxième en 2022, pas très longtemps après. On était encore un peu en pandémie. Puis c'était dans ces moments-là.
Pour ma part, en fait, j'avais déjà les enfants lorsque j'ai commencé mes études. Donc, ma fille avait 4 ans, puis mon fils avait 9 mois. Donc, il était tout petit, sans garderie encore. Puis ma fille fréquentait la prématernelle à temps partiel.
Hmm. Puis tes motivations, toi, par rapport à... qu'est-ce qui motivait ton projet d'études?
Mon projet d'études, dans le fond, était vraiment motivé par le désir d'avoir une sécurité d'emploi, une stabilité également, puis d'insuffler la même passion à mes enfants là, pour les inciter aux études, en fait, aux études supérieures ou poursuivre le chemin là, qui allait leur plaire, mais qu'ils puissent savoir que c'est possible. Puis que, en fond, moi, je l'avais fait, donc je voulais vraiment les inspirer à le faire à leur tour.
Tout à fait. Excellente motivation, hein, quand on y pense. Quelles ont été, là, en fait, je serais curieuse de vous entendre sur les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées en tant que parent étudiant?
C'est sûr que pour ma part, mon fils n'avait pas de garderie, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, c'était la pandémie également là, quand j'ai commencé mon bac. Donc, c'était difficile au niveau des ressources là, pour avoir un peu de temps pour étudier. Tu sais, j'étais plus ou moins à l'aise de faire appel aux mamies, bon, considérant leur âge, là, c'est, qui était quand même assez
le contexte,
avancé,
hein,
environ 70 ans, 70 ans et plus. Puis le contexte là, également, donc c'était relativement incertain. C'est sûr que de faire la gestion du temps, trouver le temps pour étudier avec un bébé pas de garderie, une petite à temps partiel, c'était un beau défi. Ça a été une difficulté quand même non négligeable. Mis à part ça, évidemment, il y avait le syndrome de l'imposteur qui était vraiment très présent pour moi. Anxiété de performance, évidemment, c'est très étroitement relié. Tout ça mis ensemble a fait en sorte que j'ai eu des moments de découragement, évidemment, puis plusieurs fois où je me suis questionnée quant à la poursuite de mon projet. Donc,
c'est vrai, oui.
Ouais, oui,
à ce point-là. Ouais. Puis tout le partage aussi entre le temps et les enfants, de départager tout ça, de dire OK, qu'est-ce que j'ai du temps, je le mets sur mes études, je le mets sur les enfants.
Exactement, la gestion du temps, c'est sûr que c'est constamment, c'est une bataille constante en fait, là, parce que ben, à l'université, on ne se le cachera pas, on peut toujours en faire plus, c'est jamais suffisant, on peut jamais être suffisamment prêt pour un examen, puis un travail peut toujours être amélioré, ça ne sera jamais la perfection. Donc, de faire cette cassure-là, puis de décider de mettre ça de côté, qui est un projet qui est coûteux en termes de temps, d'argent et tout ça, financièrement, bien, veux pas, il y a des concessions à faire. Donc, de mettre ça de côté, de consacrer du temps aux enfants, de consacrer du temps bon, à l'entretien de la maison, etc., aux tâches de parents. Puis après ça, bien, il y a nous également qui, qui doit entrer dans mais l'équation. Oui. Il y a les obligations familiales. Tu sais, moi, mon père était très malade à l'époque, donc je devais prendre soin de lui. Donc, les obligations
autres.
Familiales autres, au-delà des enfants. Puis on essaie au travers de ça de maintenir des relations avec nos amis, ce qui n'est pas toujours facile. Puis, pour ma part, je me suis rapidement impliquée dans le milieu universitaire, dans les associations, etc. Donc, ça aussi, ça grugeait là, une part de mon temps. Donc, je devais, c'est ça, essayer de...
Départager un peu tout ça. Hein?
Exactement.
Et presque équitablement, tout le moins, d'avoir ouais. Tout le monde un peu sa part de gâteau. Là.
Exact.
C'est des rôles sociaux qui sont très identitaires. Tu sais, le rôle social d'étudiant, le rôle social de parent, là, c'est deux rôles dans lesquels les gens veulent s'investir. On a une idée de ce qu'un étudiant devrait être. On a une idée de ce qu'un parent devrait être de plus en plus avec les réseaux sociaux. Là, on voit plein de vidéos de parentalité bienveillante, parentalité consciente et tout ça. Tu disais que tu avais ressenti là, cette performance-là au niveau académique. As-tu eu l'impression de la ressentir aussi en tant que parent?
Bien, totalement. Tu sais. Par contre, c'est sûr que le fait d'être aux études, j'avais la possibilité d'avoir un horaire qui était malléable. Donc, en toute transparence, actuellement, je travaille à temps plein, tu sais, puis je suis aux études à temps plein également. Puis bon,
Maman
à temps plein. Donc, tu sais, je trouve que c'était plus facile, tu sais, quand j'étais aux études à temps plein, évidemment, là, parce que, bon, mais je pouvais vraiment gérer mon temps comme je le voulais. Mais oui, effectivement, la pression en tant que parent de vouloir être partout, de toujours être présent pour les enfants, etc., tu sais, on le vit beaucoup maintenant. C'était pas nécessairement comme ça il y a quelques années. Les parents étaient moins là. Moi, ma fille fait, exemple, beaucoup de gymnastique. Donc, il y a des moments où je pouvais pas nécessairement participer, la regarder là, durant toute sa pratique. Moi, c'était un moment que j'utilisais pour étudier. Mm-hmm. Donc, tu sais, ça a été une adaptation pour elle aussi parce qu'avant, bien, je la regardais pendant tout le long de sa pratique. Donc, mais, tu sais, je pense aussi que quand on l'explique à nos enfants, les raisons pour lesquelles on le fait, c'est des choix qu'on doit assumer. Par contre, c'est le travail. C'est un travail à long terme. Là, ça se fait pas en claquant des doigts, là, j'ai envie de dire.
C'est plus facile à dire qu'à faire.
Oui. Parce qu'on a la culpabilité facile en tant que parent. Je ne sais ben pas, Vincent, non, si tu vas être d'accord non. Avec moi.
Mais... Vincent, il hoche la tête. T'aurais goût d'ajouter hein, par rapport à la pression de parent.
Oui, mais en fait, tout le monde Puis je trouve ça gentil, mais tout le monde a ses conseils propres à eux qui nous donnent. Puis le plus difficile, c'est de dire oui, effectivement, c'est un bon conseil. Puis de mettre ça de côté, puis faire comme toi, tu penses que c'est bien de le faire.
Suivre son instinct.
Oui, exact. Tellement.
Puis ce qui s'applique à ton contexte, il y a des conseils que c'est merveilleux, c'est des très bons conseils qui s'appliquent pour une certaine réalité, une certaine situation, mais que peut-être toi, dans ta réalité de parent étudiant, ce conseil-là n'est pas applicable.
Oui, exact.
Ben, c'est sûr que, tu sais, en plus, quand le conseil vient exemple de nos parents, ben, tu sais, on n'est pas du tout la même génération. La réalité est totalement différente. Tu sais, moi, ma mère a 72 ans. Tu sais, vraiment, elle m'a eu tard, elle m'a eu à 40 ans. Donc, on s'entend que les mentalités ont vraiment évolué depuis. Fait que, tu sais, on a de la difficulté à se comprendre par moment, là, en fait. Là, donc, tout à fait que ces conseils ne s'appliquent pas nécessairement à moi.
Oui, puis les statistiques démontrent que les parents d'aujourd'hui passent beaucoup plus de temps avec leurs enfants que les parents à une autre époque. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus présent physiquement, beaucoup plus dans le jeu, beaucoup plus en interaction avec eux, que peut-être que c'est ça, justement, quand on l'était moins, bien, il y avait des moments où, quand on prenait le temps d'avoir ces interactions-là, on pouvait le faire de telle ou telle façon, mais que là, actuellement, tout le temps qu'on donne à nos enfants, en plus du temps qu'on doit donner ailleurs, c'est quand même incroyable. On va finir par manquer de temps quelque part,
clairement,
c'est sûr.
Oui, c'est clairement, ils nous ont poussé du temps entre-temps.
Mais je pense que c'est le sommeil qui a réduit.
Oui, bien, puis oui, exactement. Fait que dans le cadre de ton rôle parental, le sommeil fait tellement partie des enjeux parfois, autant qu'on en a besoin, qui est manquant, puis ça nous amène des fois dans des zones où on se connaît moins, hein. Des fois, on se reconnaît moins.
Mais tu sais, tantôt, tu parlais des grandes difficultés, puis c'est quelque chose que j'avais totalement oublié, mais écoute, c'est devenu un running gag avec mes amis. Chaque mi-session, chaque fin de session, mes enfants étaient malades. Mais malades, là. C'était comme next level, là. Fait que, tu sais, faire des... Heureusement, on était en mode hybride ou bien à distance, là, mais, tu sais, faire des examens avec la gastro, là, ça m'est arrivé. Puis tu te dis, oh my God, est-ce que je suis vraiment en train de vivre ça? Mais, ouais, fait que... Là,
ça sollicite énormément d'énergie, effectivement. Puis toi, Vincent, as-tu vécu des moments où tu t'es dit, hey, là, genre, j'y arriverai pas? D'essoufflement, de découragement?
Oui, j'en ai vécu plusieurs.
Puis toi, tu les as eu bébé naissant, en plus, pendant tes études.
Oui, exact. Oui, j'en ai eu plusieurs, surtout, je les ai eu bébé naissant pendant mes études. Je les ai eu pendant le début de la pandémie, où est-ce qu'on savait pas c'était quoi le virus. On savait pas si c'était dangereux pour les enfants, pour les bébés naissants. Donc, nous, on écoutait, puis on se disait, OK, mais on veut pas demander trop d'aide parce qu'on veut pas exposer nos enfants à ça. Puis après ça, ça a été aussi de trouver la garderie qui est pour des places poupons. C'était catastrophique. On a réussi à en trouver une qui était à 30 minutes de route de chez nous. Donc, je faisais 30 minutes pour aller porter mon enfant. Je refaisais 30 minutes. Après ça, je revenais à Trois-Rivières, une autre heure de route. Mais après ça, il fallait pas que je revienne trop tard parce que la garderie fermait à 4 heures, mais c'est la seule que tu as trouvée. Donc, tu prends cette garderie-là. Donc oui, j'en ai...
Une gymnastique incroyable.
Oui, exactement. Donc, gérer son temps, c'est...
Le temps.
C'est assez impressionnant comment on doit tenter de faire ça, mais que ça... C'est en évolution chaque jour, là. Chaque jour est différent. Donc, ouais, ça a été beaucoup d'apprentissage pour ça. Ça a été...
Puis je pense qu'il y a un moment où, tu sais, dans ta transition, maîtrise, doctorat, bébé 2 est arrivé, je ne me trompe pas, quelque chose comme ça?
Oui, exactement. En fait, quand je terminais, j'ai terminé ma maîtrise au début de la pandémie, en même temps que, comme un mois après, mon garçon, il naissait. Puis après ça, ben, pas très longtemps après, ma conjointe était enceinte de notre deuxième. Puis j'arrivais dans un moment dans mon doctorat où est-ce qu'il fallait que je sois 125% concentré. J'arrivais à l'examen général de synthèse, que c'est un examen qui est quand même assez difficile à faire, qui est énergivore, puis il fallait que je prenne tout ce temps-là. Mais pendant ce 2 mois-là qu'il fallait que je prenne, c'était exactement là que ma petite allait naître.
Ben oui.
Donc j'avais le choix entre soit prendre mon temps pour mon examen ou prendre une pause d'études pour
aller voir naître mon enfant
qui passait les 2 premiers mois de vie avec mon enfant. Donc, j'ai fait le choix de prendre une pause d'études d'un an après pour être capable d'avoir du temps avec ma famille.
Bien, puis tu vois, ça nous amène un peu à quelles ont été, tu sais, un peu vos stratégies. Toi, ce que tu nommes, c'est que tu as pris une pause. Tu as dit, là, on débranche la plug, ça va être ça pour la prochaine année. On s'autorise une pause, notamment. Mais quelles ont été vos autres stratégies là, pour vous adapter, pour réussir à passer à travers votre parcours étudiant tout en étant parent?
Bien, ça, je trouve ça super admirable, Vincent, que tu aies réussi à le faire parce que c'est une décision qui est possiblement très déchirante. Puis tu dois en plus tu l'annonçais à ta direction de recherche. Fait que c'est une pression qui est quand même difficile à gérer. Fait que t'as toute mon admiration pour avoir fait ce choix-là. Félicitations. Pour ma part, ça a été vraiment... D'abord, j'ai dû apprendre à me connaître, là, honnêtement. C'est nouveau, hein, tu sais. Tu arrives à l'université, fait que tu vis des choses que tu n'as jamais vécues, un stress que tu n'as jamais vécu, une anxiété que tu n'as jamais vécue. Fait que tu as des réactions qui sont nouvelles. Donc, d'apprendre à me connaître, aussi bête que de savoir que quand je suis en SPM, 3, 4, 5 jours avant, j'ai le goût de tout lâcher puis de comme. Mais tu sais, si je m'étais.
C'est pas écoutée, là qu'on prend nos grosses décisions.
Ça, exactement, mais j'avais jamais été confrontée à ça par le passé. Donc, c'est là que ça s'est fait, tu sais. Donc, c'est ça, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à reconnaître mes limites également, savoir quand j'avais besoin d'arrêter. Puis, tu sais, parfois, prendre une pause d'une soirée ou deux, justement, tu sais, quand il te reste un peu de temps pour mettre du me-time dans ton horaire, ben c'est juste plus bénéfique pour la troisième journée quand tu reprends, là, finalement, parce que là, ben t'es plus motivé, puis t'as pris le temps de faire le vide. Je dirais que ouais, ça a été pas mal mes stratégies.
Puis c'est bénéfique, hein, cette pause-là. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'il faut continuer. Mais plus tu es stressé, moins tu es disponible de toute façon pour apprendre, pour te concentrer. Les problèmes de mémoire, tout ça peut arriver avec le stress puis l'anxiété. Fait que prendre un moment pour aller recharger sa batterie, ça ne nuit pas aux études. Au contraire, c'est bénéfique pour les études.
Exactement. Puis sinon, mais c'est sûr que moi, de maximiser vraiment chaque moment... ça faisait partie de mes stratégies. Donc, comme je disais tantôt, tu sais, étudier pendant que ma fille était à la gymnastique, bien, moi, c'était une heure et demie, deux heures, tu sais, en fonction du temps, là. Ces cours se sont prolongés avec les années. Mais donc, de me concentrer sur mes études, avancer mes travaux pendant ces moments-là, c'est pour moi, c'était ça. Profiter des siestes, chaque moment qui était possible.
Faisait toutes les opportunités de temps d'études. toutes
les petites miettes. Chaque grenaille de temps était vraiment importante. Mais là, sont encore d'ailleurs.
Est-ce que ta famille va participer à ton projet d'études?
Bien, c'est sûr que oui. Tu sais, pas 200%. Ma mère est à une heure de chez moi. Tu sais, comme je disais, avec le contexte de pandémie, tout ça, tu sais. Mais oui, là, évidemment, ça a été... les mamies ont été d'un grand appui. Bon, le papa des enfants a participé également. Quand il était capable, j'ai imposé des moments où c'est vraiment nécessaire, là, notamment, justement, mi-session, fin de session. Pour qu'ils mettent l'épaule à la roue. Donc oui, là, grâce à eux, ça m'a permis d'aller au bout de mes projets.
Si je me souviens bien, il y avait aussi toute la partie implication sociale, universitaire, qui, toi, t'a donné des ailes.
Bien, vraiment, ça m'a donné des ailes. Puis, tu sais, on va en parler, je pense, un petit peu plus tantôt, non? Dans le fond, tu sais, c'est sûr que moi, mon réseau social, personne autour de moi vraiment savait c'était quoi être à l'université, puis ce que, tu sais, quand tu arrives à la maîtrise puis au doc, essayer d'expliquer aux gens qui sont pas passés par là ce que tu fais, tu sais.
C'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui est à la maîtrise au doc, là. On s'imagine de quoi ça peut avoir l'air, mais
faut le vivre. Oui, ouais. Mais au-delà de ça, c'est que les gens comprennent pas, c'est abstrait, là. Il y a tellement une fine portion de la population qui passe par là. Tu sais, moi, ma famille, mon travail, ils comprennent pas ce que je fais. Fait que de me retrouver avec mes pères de l'Uni qui font la même chose que moi, on parle le même langage, puis on passe par les mêmes affaires, bien, ça a été vraiment, pour moi, un appui inestimable. Donc, oui, je me suis fait des amis. Puis, par le biais des implications étudiantes, bien, tu sais, j'ai développé des amitiés qui se poursuivent au-delà de ces implications-là. Puis, ça m'a également permis de créer des liens avec le corps professoral, les chargés de cours, puis justement des gens des SAE qui m'ont... Ça m'a motivée, puis ça m'a permis de m'épanouir, puis de réaliser plein d'affaires que j'aurais pas réalisées si j'avais pas pris ces initiatives-là, dans le fond. Donc oui, pour moi, ça a été vraiment un moteur puis une richesse incroyable au travers de mon parcours.
Ça me fait penser, je sais pas, Jessica, si tu sais quel terme je vais utiliser, là, mais... Humanité partagée.
Humanité commune.
Une humanité partagée, tellement. Ça me fait vraiment penser à ça dans les stratégies, pratiquer l'autocompassion, parce que s'accueillir dans le fait que ce ne sera pas parfait, puis dans le fait qu'on est humain, puis qu'il va y avoir des moments qui sont plus faciles, puis des moments qui sont plus difficiles. Puis dans l'autocompassion, il y a ce principe-là d'humanité partagée, de parler, d'échanger avec des gens qui comprennent notre réalité, qui font des erreurs eux aussi, qu'eux aussi, ils trouvent ça peut-être rushant, puis ils ont envie de se plaindre des fois que ça n'a pas d'allure, là, tout le temps à investir dans ce projet de vie-là, dans ce projet scolaire, académique ou ce projet universitaire, je vais le dire comme ça. Mais c'est super important. Puis les comparatifs qu'on a ou les gens avec qui on parle, quand on a beaucoup de gens qui ne comprennent pas notre réalité, ça peut être drainant, ça peut être vraiment énergivore parce qu'on essaie de se faire comprendre. Fait qu'en plus de vivre les émotions, bien, on essaie de les expliquer puis de se faire comprendre puis que les gens soient empathiques. Fait que non, c'est clair que de pouvoir partager puis échanger avec des gens qui comprennent, qui le vivent, sans nécessairement qu'ils soient parents. J'imagine qu'il n'y en a pas tant que ça, des parents étudiants là, dans vos programmes respectifs ou du moins dans votre entourage. Là,
mais... En avez-vous beaucoup croisé dans votre parcours?
Vous êtes... pas tant, je te dirais. Un petit peu plus dans les cours de maîtrise de week-end, parce que dans le fond, c'est greffé avec le programme du DESS, donc qui est un programme qui a beaucoup de retours aux études ou de gens qui sont sur le marché du travail.
Des professionnels,
exactement. Avec les études. Donc, un petit peu plus à ce moment-là, mais par contre, ça, c'est des week-ends, c'est très, très, très condensé, là, donc c'est 3 week-ends durant la session.
Un peu moins tisser de liens avec ces gens-là.
Exactement, tu tisses moins de liens que lorsque tu passes une session ensemble. Puis, tu sais, puis au bac, ben, les gens étaient plus jeunes, donc il n'y en avait pas vraiment, j'en ai pas connu.
Puis toi, Vincent, comment t'as vécu ça, là, tes stratégies pour t'adapter? Quels ont été tes moyens à toi, là, toi, ta famille?
On a été chanceux parce que la pandémie a fini par s'estomper un petit peu, puis on a eu beaucoup d'aide de nos parents respectifs qui étaient très présents pour nous. Donc, ça nous a aidés. On a aussi réussi par trouver une garderie qui était à 5 minutes à pied de chez nous. Donc, au lieu de faire une heure de voyagement, on faisait 10 minutes, mais du temps de qualité avec tes enfants en train de marcher, puis pas dans l'auto. Donc, ça l'a beaucoup aidé. Sinon, je dirais... pendant la pandémie, on a aussi utilisé un peu les services d'alimentation des traiteurs. Ça nous a sauvés dans nos fins de session puis dans nos mi-sessions. Donc ça nous a beaucoup aidé.
Quand on peut se le permettre, là, c'est effectivement, ça enlève une charge importante. Exact. La préparation, la planification des repas, effectivement. Ouais.
Puis sinon, quand j'ai pris ma pause d'un an, ça n'a effectivement pas été une décision facile à prendre. Ça a été difficile à prendre. C'est pas tout le monde dans mon équipe de direction qui était d'accord avec cette décision-là. Mais c'est une décision personnelle que je me disais, c'est ma vie à moi, c'est mon projet personnel. Donc, c'est pas aux autres de prendre la décision. Ça a été difficile à faire, mais ça a fait du bien. Mon but, c'était vraiment de, pendant un an, enlever toute l'anxiété académique que j'avais. Je me suis dit, ça va me faire du bien. Peut-être que c'est pas fait pour moi, finalement, les études supérieures. Même si j'ai réussi ma maîtrise puis que je te rentre au doctorat, peut-être que... c'est pas fait pour moi. Donc, je me suis dit, pendant un an, on va voir ce que ça fait. Puis, ben, je me suis rendu compte qu'il me manquait ce monde-là. Il manquait le challenge cognitif que j'avais pu. Je faisais un emploi que j'aimais, mais que je faisais pour avoir de l'argent, pour nourrir la famille.
Puis tu sais, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Quand tu as un emploi, tu as le droit d'avoir un congé parental. Ça fait partie de ce que tu as, déjà en partant. Tu as un enfant, tu as un congé parental.
Ouais.
Le papa peut décider de prendre plus que son 5-6 semaines. Là, je me souviens plus c'est quoi les chiffres exacts. Là, ça fait quand même longtemps pour ma part. Là, mais techniquement, tu y as le droit. Fait que là, c'est comme si dans tes études, ben là, c'est toi qu'il faut qu'il prenne la décision. Puis pas que ça te fait prendre du recul, mais tu sais, tu dis, il y avait des membres qui n'étaient pas d'accord, alors que crime, c'était quand même, tu viens d'avoir un bébé. Là.
Ouais, mais tout n'est pas vu de la même manière de chaque personne. Puis prendre un an quand tu es au doctorat, pour l'étudiant, ça paraît pas si mal, mais je veux dire, en science, en un an, tout change.
Ouais.
Donc quand tu reviens, le papier que tu es en train d'écrire, il n'y a plus d'actualité.
Ah oui, oui, oui.
Il ne donne plus rien, ce papier-là. Donc, c'est cette vision-là de mon équipe de direction qui... c'est ça qui m'expliquait. Mais après ça, quand j'ai pris ma pause, ça fait du bien, mais là, j'ai fait, il me manque quelque chose. Puis là, je ne voulais pas nécessairement retourner dans l'équipe que j'étais. Puis j'ai fait, j'ai envie de faire de la recherche, mais je n'ai pas envie vraiment de faire un doctorat, je crois. Puis là, j'ai parlé à d'autres personnes, j'ai parlé à d'autres profs, puis une prof... qui a dit oui, j'aimerais, elle me connaissait, j'aimerais vraiment ça que tu viennes faire de la recherche avec nous. Après ça, elle m'a dit, qu'est-ce que ça te prendrait pour que je puisse faire, pour que tu puisses t'investir avec nous pour faire ton doctorat? Je dis, moi, tu me connais, tu sais qu'est-ce que je suis capable de faire, donc je veux un projet qui va être plus clé en main, considérant que j'ai 2 enfants à la maison, considérant que ma conjointe, pendant la pandémie, elle a été infirmière, elle a lâché son emploi pour se partir une entreprise aussi. Donc, on avait plus beaucoup de temps, donc je voulais le temps que j'avais, je voulais l'investir vraiment pour le projet. Puis elle m'a dit, parfait, voici les projets que j'ai, il y en a un qui t'intéresse. J'ai dit oui, celui-là. Elle a dit, parfait, on dit, viens-t'en.
C'est c'est ça. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Tu sais, on est dépendant de nos directions de recherche, puis ça fait toute la différence dans notre parcours. Puis je trouve ça vraiment le fun que tu aies pu avoir une direction de recherche qui t'appuie là, dans, où tu en es maintenant dans le stade de ta vie, si on veut, puis ça te permet de combiner vraiment, tu sais, de t'épanouir tant au niveau scolaire, puis finalement, ça fait au niveau professionnel, éventuellement, ça allait déjà un peu, je pense, puis dans ton rôle de papa, puis de conjoint également, je trouve que c'est vraiment merveilleux.
Oui, mais je l'ai cherché quand même, cette direction-là.
Ça, c'est difficile. Moi aussi, j'ai eu à changer de direction de recherche pendant ma maîtrise, puis on n'est pas vraiment, en tout cas, je trouve, on n'est pas tant outillés pour... savoir justement sur quoi on va travailler, qu'est-ce qui nous allume, avec quel genre de prof on pourrait avoir un fit. Je pense que on se fait dire, tu arrives à la maîtrise, on se fait dire qu'il y a un étudiant sur trois qui va finir, puis tu arrives au doc, c'est un sur deux, tu sais, puis... Mais je pense que s'il y avait plus d'accompagnement à cet effet-là, ça serait des meilleurs résultats.
Oui, puis aussi enlever le stress de vouloir performer à 100% à tout prix. Un des meilleurs conseils que j'ai eu, c'est la meilleure maîtrise ou le meilleur doctorat, c'est celui qui finit. Est déposé. Si tu le mets parfait, mais que tu le déposes jamais, il n'est pas parfait. Tandis que si tu le fais à ton goût, tu te donnes à 100%, mais tu le déposes, il est parfait.
Ben, puis, tu sais, on en parlait tantôt, je pense, avant d'enregistrer, là, la flexibilité du projet de vie, la flexibilité des attentes de l'étudiant, c'est quelque chose d'important, que ce soit au niveau des résultats, que ce soit au niveau, justement, tu sais, ce perfectionnisme-là. Est-ce que je peux prendre un pas de recul par rapport à ça? Puis aussi à la maison, je pense que c'est toi, Marie-Michelle, qui en parlait là, plus tôt, là, mais... peut-être que ton linge propre sera pas plié tout le temps, puis peut-être que ta cuisine n'aura pas l'air d'être le cover d'un magazine de décoration intérieure parce qu'elle est vivante, parce qu'il y a des enfants, puis on sait que des enfants, surtout 2, 4, 8 ans, ça fait le bordel. Ça en sort des jouets. On peut pas les suivre partout dans la maison en ramassant tout le temps. Fait que, il y a ces compromis-là aussi, des fois, que c'est de s'asseoir puis de se dire, OK, moi, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis je vais réajuster mes attentes en fonction de ça. Je pense que c'est important de le faire.
Oui, tout à fait. Puis ce que j'entends aussi, ce que j'ai entendu dans le discours un peu à Vincent, c'est ben, de le transmettre à son projet de maîtrise ou doctorat, de le transmettre à son professeur, un peu ce qu'on nommait dans la première section de l'entrevue, du podcast, plutôt de communiquer avec ses professeurs sa réalité de parent, de le transmettre, puis de faire en sorte que le projet corresponde à ta réalité, tes attentes par rapport à toi-même, par rapport à ta réalité de parent, par rapport à ta réalité de conjoint ou par rapport à ta réalité d'aidant naturel. Hein. Tantôt, tu parlais qu'il fallait que tu aies ton père, si je comprends bien. Fait que, tu sais, il y a quand même toute cette réalité-là. Derrière l'étudiant, il y a toute une histoire de vie, tout un contexte. Donc, de le communiquer, ça fait partie du projet d'étudiant pour qu'il soit au courant puis qu'il soit sensible à ça. Puis si c'est pas le cas, bien des fois, effectivement, ça amène à prendre des décisions qui sont pas tout le temps faciles à prendre, mais de s'orienter vers un autre projet, point final. Tu sais, puis c'est pas plus grave, puis vous êtes plus humain de vivre ce genre de situation-là. Donc, bravo à vous deux d'avoir fait ce chemin-là. Dans tout ça aussi, je me questionne tantôt de cette autonomie qu'il y avait les SAE qui ont été d'un grand aide pour toi dans ton parcours, là, surtout la vie étudiante, je comprends bien. De ton côté, Vincent, est-ce que le SAE a pu, à certains moments, te donner un petit coup de main?
Oui, quand ma deuxième est née, puis qu'après ça, j'ai décidé de recommencer un nouveau doctorat, puis que ma conjointe partait son entreprise aussi en même temps, l'anxiété est quand même revenue assez rapidement. Puis, je suis quelqu'un que sa force, c'est pas l'organisation. je sais pas comment j'ai fait pour me rendre où est-ce que je suis là au niveau académique, mais j'ai toujours été capable de gérer, de faire ce que j'avais à faire, des fois un peu dernière minute, mais c'était fait. Puis, je me rendais compte qu'avec deux enfants, il me fallait d'autres stratégies, il fallait que je sois capable. Donc, après, j'ai fait appel au SAE pour du soutien psychologique pour essayer d'être capable de m'outiller là-dedans pour que je sois capable de terminer mon projet doctoral aussi.
Ben oui.
Mais tu sais, ça enrobe un peu ce qu'on disait. Dans le fond, ça prend aussi une capacité d'introspection pour apprendre à reconnaître nos limites, nos faiblesses, puis après ça, travailler pour, amoindrir nos faiblesses, puis travailler en fonction des limites. Fait que, c'est intéressant ce que tu dis.
Tellement. Au niveau plus technique, là, vos stratégies d'études plus là, ciblées vers... ça a été quoi là, vos moyens là, pour vous mettre à la tâche puis d'organiser tout ça pour que vous y arriviez finalement? Là.
On avait-tu, toi, Vincent?
Pas tellement. Comme je disais, l'organisation, c'est vraiment pas ma force. Je fonctionne...
La pression.
Ouais, je fonctionne vraiment bien sous la pression.
Le fameux deadline.
Ouais, le... si j'ai pas de deadline, je le ferai pas.
Puis au doc...
Au doc, faut que je dise à ma directrice de me donner okay. des deadlines.
C'est parfait.
Une fois que j'en ai...
la communication.
Ouais, exactement, exactement. Une fois que j'en ai, après ça, je suis capable de le faire. J'essaie de m'organiser avec mon agenda électronique. Ça fonctionne un peu. Quand je la regarde, mon agenda papier, je me dis « Ah, ça va peut-être m'aider encore plus si je l'écris. » Mais je perds mon agenda papier, donc ça ne donne pas grand-chose. Donc ça, c'était pas mes forces. Une chance que ma conjointe, qui est très trop organisée, m'a aidé à m'organiser un peu mieux. Mais sinon, mes autres techniques, c'était d'utiliser les siestes des enfants. Les siestes des enfants, c'est un bon moment pour essayer de travailler quand ça va bien. Sinon, ça ressemblait à ça.
Puis est-ce que tu étudiais chez toi, dans les cafés, à la bibliothèque? Avait-tu des lieux qui étaient privilégiés pour toi?
Le moins possible chez moi. Il y a trop de choses à faire.
Exact.
Il y a trop de distractions. J'aimais mieux aller me payer un café, une chocolatine, travailler dans un petit café, mettre mes écouteurs, puis être là le temps que j'ai besoin d'être là, mais le moins possible chez moi. Les bibliothèques, j'aimais ça aussi, mais surtout les petits cafés. Ça donne un peu de motivation.
Puis tout le temps, la grosse tâche, on choisit nos tâches en fonction de l'énergie.
Un peu comme tu disais tantôt, on réussit par se connaître un petit peu. On sait, avec des enfants, quand est-ce qu'on est productif, quand est-ce qu'on n'est pas productif. Si les enfants ont décidé de ne pas dormir la nuit, là, c'est possible que tu sois un petit peu moins productif cette journée-là. Donc, c'est vraiment capable de gérer ces moments-là en fonction de ton niveau d'énergie, en fonction de ton niveau d'imagination aussi, parce qu'il faut que tu sois créatif, il faut que tu sois imaginatif quand tu es aux études supérieures. Tu n'as pas le choix.
Oui, réévaluer chaque jour.
Tout à fait. Là, je vais citer Rachel Thibault. Elle parlait de... Oui, c'est bien ça, c'est bien Rachel Thibault. Elle parlait de productivité versus efficacité.
Ouais.
Hein, des fois, on est bien efficace, on abat des tâches, là, on a fait notre liste de to-do, on la clenche. Là. Puis d'autres fois, alors que là, en ce moment-là, on est efficace dans plein de choses. On abat des tâches, alors qu'il y a des jours où on a une plus grande capacité de concentration et là, on peut être productif, hein, créer du contenu, écrire. Ça demande quand même plus de concentration, d'attention. Ouais. Donc oui, de choisir des tâches hein, en fonction
Mais de... Mais ce qui est dur aussi au cycle supérieur, c'est... Des fois, tu travailles pendant 10 heures pour lire, prendre des notes. Puis tu te rends compte que tu as l'impression d'avoir rien fait.
Ouais.
Tu n'as pas avancé. Ouais. Tu as avancé dans ta réflexion, mais tu n'as pas avancé sur papier. Tu dis,
ben, c'est pas rien concret.
Ouais,
exact.
C'est là qu'on a de la difficulté à dire à nos amis et à nos parents, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai lu. OK. Oui.
Effectivement. Sinon, est-ce qu'on écrit à la main? Est-ce qu'on écrit papier, ordinateur? Qu'est-ce qui nous permet de mieux absorber de la matière?
Moi, personnellement, j'ai longtemps pensé que j'étais une drôle de bébite, là, parce que j'avais vraiment l'impression que quand j'écrivais, je faisais mes lectures dans mes livres, tout ça, puis tu sais, j'écrivais les points principaux à la main, dans le fond. Je me faisais des notes avec mes couleurs, puis tout ça. C'est vraiment long, là. C'est pas juste comme lire ton texte dans le livre. Puis j'avais vraiment l'impression que quand je tapais à l'ordinateur, bien, le niveau de mémorisation n'était pas le même. J'avais l'impression que j'avais moins de réflexion à faire puis que j'étais vraiment pas concentrée sur ce que je faisais. Je sais pas, tu tapes à l'ordinateur, ça va excessivement vite puis t'as pas besoin de réfléchir versus quand tu prends le temps d'écrire, former tes lettres et tout ça. Puis j'étais super contente au printemps de lire des études qui venaient me conforter dans cette réflexion-là. Fait que oui, effectivement, là, selon les études, paraît qu'on a une meilleure mémorisation, qu'on prend des notes à la main, que lorsque on le fait à l'ordinateur, ça vient peut-être un petit peu toucher ce que tu disais, productivité, efficacité, tu sais, c'est plus efficace à l'ordinateur, mais on absorbe moins, finalement.
C'est la même chose pour les outils de gestion du stress et de l'anxiété. On recommande d'écrire à la main nos pensées, d'écrire à la main ce qui nous tracasse, de venir écrire des pensées positives, pas juste les pensées, parce que justement, par écrit, il y a comme une façon différente de traiter l'information.
C'est ça, exactement, dans le cerveau. T'sais, je pense qu'il doit travailler comme en double, en fait, là. Peu importe. Puis, pour ma part, ben, au niveau des lieux d'études ou de travail, évidemment, non, moi non plus, là, à la maison, c'est trop facile d'aller laver 2-3 morceaux dans la vaisselle, d'aller partir une brassée de lavage, puis te dire « Oups, je pourrais faire telle affaire », puis là, finalement, la journée a passé, puis t'as rien fait. Puis, Donc, de travailler dans des endroits où j'avais pas le choix de travailler. Donc, de m'assurer d'être dans un lieu où je pouvais faire que du travail, dans le fond, sans être dérangée par autre chose.
C'était... À proximité du téléphone ou le téléphone, on l'éloigne?
Et moi, encore une fois, mon cerveau, des fois, j'ai l'impression qu'il est bizarre, mais j'ai la difficulté à faire juste une chose à la fois. Fait que moi aussi, je peux, quand j'ai des lectures à faire, là, puis que j'ai besoin de plancher ou un texte à écrire, puis que là, je suis dans mes deadlines, puis que ça doit avancer, je mets de la musique, je chante en même temps, puis j'écris. Donc, mais là, ça avance, puis je fais pas d'autre chose. Donc,
chacun sa méthode. Exact. C'est parfait. On est dans le respect. Super. Bien, dans votre discours, là, j'aurais goût de relever certains points qui ressortent, là, mais rapidement, de points communs, notamment, entre autres, qui pourraient être utiles, là, puis qui fait un peu de pont par rapport à notre première section d'épisode. J'entends dans votre discours que vous avez changé vos priorités puis vos attentes à partir du moment où, ben, en fait, les enfants, le projet d'études est arrivé, vos attentes ont changé. Je vois des têtes qui se hochent. Vous avez accepté aussi de demander de l'aide, même si des fois, dans le contexte, ça permettait moins, mais vous avez accepté de demander ou de recevoir cette aide-là. Donc, on sollicite, on reçoit et on accepte cette aide-là. On reconnaît nos limites, hein, dans tout ça. C'est excellent. Sans aide de grands planificateurs, d'organisateurs, d'agenda, vous avez quand même à chaque fois été en mesure de planifier vos deadlines ou vos examens et travaux, remises de travaux et tout ça. Puis vous y êtes arrivé. Donc, vous n'avez pas eu besoin d'être des grands planificateurs, juste de le prévoir à l'agenda. On perd un peu l'agenda, c'est pas grave, on le retrouve. On connaît notre deadline, on a tout ça dans la tête. Puis vous avez aussi votre propre recette, hein, au niveau du lieu d'études, du moment d'études, vos stratégies, mettons une musique dans les oreilles ou bref, une petite chocolatine. Vous avez aussi, bien là, on n'en a pas parlé là, dans le cadre de ce podcast-là, mais on a en tête aussi de maîtriser vos finances. Hein. On n'a pas parlé de cette boule-là financière, de comment vous êtes arrivé, est-ce que vous avez fait appel à l'AFE plutôt.
Oui. Les enjeux financiers liés au rôle de parent slash au rôle d'étudiant, là, parce qu'il y en a certainement. Là.
C'est ça, mais j'ai en tête que vous aviez cette capacité-là de maîtriser ces finances-là pour arriver à... finalement arriver au doctorat ou à la maîtrise, vous avez cette capacité-là. Sinon, ben de vous accorder du temps, hein, à autre chose qu'à vos études, de passer du temps en famille, le sport, les amis, la famille, ben la famille pas éloignée, mais élargie. Après ça, ben ça a été aussi d'impliquer le corps professoral, là, puis les services aux étudiants dans votre parcours scolaire pour obtenir du support quand vous en avez eu besoin. Donc, à vous deux, là, je vous lève mon chapeau. Vraiment, vous avez su passer au travers un parcours qui n'était pas sans embûches, mais vous avez déployé vos capacités, puis vos forces, vos ressources autour de vous. Puis ça fait que quand même, vous êtes dans des projets d'études supérieures, de cycle supérieur. Puis, mais merci à vous deux d'avoir été, de vous être prêtés au jeu du balado.
Merci à vous.
Merci beaucoup.